48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Bonjour et bienvenue à tous dans ce 36e mag sur 48 FM. Alors aujourd'hui, pour ce mag, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités pour 3 sujets. Nous allons donc commencer par le réseau Électriciens sans frontières, monsieur Christian Huguet qui va nous parler d'un projet Lumière sur Kouba en Casamance au Sénégal.
Bonjour.
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 Ensuite, nous verrons Georges Roum, professeur de musique à l'école de musique de Mende, professeur de guitare classique, qui nous présentera...
Très connu, Georges.
Oui, bien sûr.
Mondialement connu, Georges Roum, qui vient de sortir un CD.
Ça va peut-être venir, hein, faut pas désespérer.
Donc, un CD de chansons pour enfants.
Entre autres.
En collaboration, entre autres, on va dire, voilà, c'est ça, en collaboration avec sa fille. Il va nous expliquer tout ça dans un petit moment. Et pour finir, nous recevrons également donc, Xavier Pédel, administrateur, ainsi qu'Anne Raymond, chargée de mission au Conservatoire d'espaces naturels de Lozère, qui fête ses 20 ans cette année. Et donc, ils nous parleront particulièrement, je crois, d'un événement qui aura lieu ce samedi 8 juin à La Malène.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Voilà, nous allons commencer donc par Électriciens sans frontières. Christian Huguet, donc, rebonjour.
Très connu aussi, Christian Huguet.
Ah oui, j'ai oublié. Alors, j'ai oublié Nicolas. Merci, Nicolas, d'être là en tant que modérateur. Donc, surtout...
Voilà, bonjour à tous.
Si je vais trop loin, tu m'arrêtes.
Pas de problème.
Donc, Électriciens sans frontières. Alors, je précise aux autres invités que vous pouvez intervenir à tout moment si vous avez des questions à poser entre invités. Ça peut être intéressant aussi.
Voilà, c'est un mag, hein, c'est interactif, hein, comme on dit.
Interactif. Entre personnes. Donc, Christian Huguet, parlez-nous un petit peu de ce projet Lumière sur Kouba, mais peut-être commencez par nous présenter Électriciens sans frontières, parce que dites-nous
oui,
un petit peu.
C'est une association, une ONG humanitaire qui existe depuis 1986, qui a été créée au départ au sein d'EDF, au sein de la cellule études et recherches d'EDF, et puis qui s'est développée. Et voilà, maintenant, il y a des délégations régionales. C'est une association nationale avec des délégations régionales. Donc, en ce qui nous concerne, on dépend de la délégation régionale Languedoc-Roussillon. Mm-hmm. Et puis, voilà, il y a un comité Lozère. Hein, c'est assez facile dans l'ordre. C'est 1000 bénévoles sur le plan national, une centaine sur le plan régional et 10 en Lozère. Donc, c'est assez...
10 bénévoles en Lozère.
10 bénévoles en Lozère.
Quelles sont les principales missions de ce comité lozérien? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus?
Il y a trois lignes, trois objectifs en ce qui concerne Électriciens sans frontières. Les projets de développement, hein, c'est un peu comme celui de Kouba, donc on y reviendra en parlant de Lumière sur Kouba. Mm-hmm. L'UPU, c'est l'unité post-urgence. Là, c'est des bénévoles qui se mettent en position prépositionnée sur un séisme, sur le tsunami. Par exemple, on est intervenu sur le tsunami ou Haïti pour partir très vite
en urgence.
Voilà. Mm-hmm. Et puis, une mission d'expertise pour des installations électriques. C'est des associations partenaires, Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge, etc., qui ont des problèmes d'installation, donc on va vérifier ces installations et leur faire des propositions de modification d'installation pour les rendre conformes, ou du moins conformes, au moins les rendre sécurisées. Hein, parce qu'il y a eu des accidents malheureux, où un médecin est mort il y a très peu de temps là, au Cameroun.
Mais alors du coup, c'est une grosse association qui a des moyens du coup.
C'est une grosse association, alors qui a des moyens. Au départ, elle avait des gros moyens d'EDF, qui était notre gros sponsor, qui continue à l'être, mais vraiment à une échelle beaucoup plus réduite que ce que c'était au début. Et puis, on a quand même de nombreux partenaires, comme les établissements Legrand sur le plan national, Nexans, qui sont des câbliers. On a quand même quelques grands partenaires. Malgré tout, chaque projet, eh bien, il faut trouver le financement pour chaque projet.
Bah justement, je crois, sur ce projet-là en Casamance, donc il y a une idée de... Enfin, j'ai vu passer quelque chose comme du crowdfunding. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est? Qu'est-ce que vous attendez avec
du
ce...
quoi? Ça se mange, ça?
Crowdfunding.
Crowdfunding, ça fait...
Oui, c'est l'idée de participer à un projet en échange de quelque chose. Et donc, c'est un projet de John, ça, c'est pas,
c'est pour ça. C'est pour ça qu'on ne connaît pas.
C'est high tech, tu vas sur Internet.
C'est mon piston qui m'a mis là-dessus. Voilà, on participe à la hauteur de ce qu'on veut et on suit le projet en permanence, en temps réel, sur place.
Mm-hmm. Donc, pour expliquer, en fait, on va sur un site Internet où on peut apporter une cotisation, une part financière, c'est ça, hein,
tout à fait.
Qui va de combien à combien? De 5
ça,
à 10
Ça va
10
de 5 euros, à 300
euros. À 300 euros, voilà. Et en fait, on choisit les projets sur lesquels on veut intervenir.
Tout à fait. Voilà. Et on choisit surtout la contrepartie qu'on va recevoir, hein, qui va de l'autocollant à un séjour dans les gorges du Tarn. Enfin, c'est voilà.
Un séjour en Casamance gratuit pour 5 personnes.
Oui. Si on offre 1 000 euros, par exemple.
Si tu mets 5 euros, tu gagnes un séjour. Cool, ce crowdfunding.
Ça, ça bien, marche pour ceux qui ont des compétences en électricité, la Casamance. Hein, surtout.
Voilà. Il voilà. Faut être bénévole un peu.
Mais c'est vrai que... C'est ça. Ça, alors, j'en profite, puisque vous m'avez lancé là-dessus. Ça s'appelle... il faut aller sur KissKissBankBank. KissKissBankBank avec un K.
C'est quoi KissKiss? Ah oui,
K-I-2-S et B-A-N-K. D'accord. KissKissBankBank. Et puis, quand on est sur le site, on appelle Kuba. K-O-U-B-A. Hein, c'est pas Cuba, c'est Kuba. ça se situe en Casamance, donc au sud du Sénégal. Et voilà, et on arrive sur le site, et après, on se laisse porter par le...
D'accord. Ouais, on s'inscrit, on devient adhérent.
Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait.
Et on participe au financement de ce beau projet.
De ce projet, donc le projet, comme vous l'avez dit, qui est la création d'une centrale photovoltaïque, mm-hmm. Pour alimenter un dispensaire, une maternité, une école et les logements des enseignants.
D'accord. En combien de fois, en combien d'étapes vous le réalisez,
une
ce projet?
Une seule fois. On part, si tout va bien, si on arrive à avoir le financement, on part le 4 novembre. Pour rentrer le 28 novembre, donc ça représente beaucoup de travail.
Finalement, les retraités EDF travaillent beaucoup plus vite que quand ils
étaient actifs.
Parce que quand tu vas voir aujourd'hui un service, c'est au bout de 6 mois. Oui, on a bien reçu votre dossier, donc je plaisante, mais c'est vrai que c'est moins administratif, on va dire
c'est moins administratif, sauf que pour réaliser ce projet, quand même, moi j'y suis avec les deux copains sur lesquels on travaille. On y est depuis l'année dernière au mois d'août.
Il y a un gros travail de préparation.
Le mois de travail qui est, comme tu le dis, très intense, où on vraiment voilà, il y a du boulot. Il faut savoir que Cuba, c'est une île mangrovienne, donc déjà il faut transporter.
Alors c'est pas Cuba. Hein.
Non, c'est pas Cuba Libre. Parce que Cuba, c'est un joli village, très joli. C'est sur une île sur laquelle il faut aller en pirogue. Il faut donc transporter
tout le matériel. Oh, sympa.
Donc ça, déjà, il y a des complications.
T'as des crocos autour qui tournent.
C'est ce que j'allais dire, il y a des crocodiles.
Ouais,
à peu près la même forme de bêtise, je crois.
Non, mais on n'est pas trop embêté par les crocodiles. Non, ils se tiennent à distance.
Ça va.
Donc, par contre, là, vous avez travaillé du coup avec les collectivités, avec les autorités locales. Comment ça se passe, ce travail?
Alors...
Parce qu'il y a quand même des lois, il y a quand même une organisation, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'arrive pas là-bas en tant qu'Européen en disant « Attendez, on va vous amener l'électricité, les sauvages du coin, là,
non,
on va vous amener
l'électricité. » Il y a une société de distribution, d'électricité. On prend contact de toute façon avec toutes les autorités. La mission, elle se fait toujours en identification. C'est-à-dire l'année dernière, on était déjà en Casamance pour installer un appareil de radiographie dans l'hôpital d'Oussouille. Et on en a profité pour aller voir ce lieu et faire ce que nous, on appelle l'identification. L'identification d'un projet. C'est-à-dire on avait travaillé en réfléchissant à ce qu'on pouvait faire. Mais c'est vrai que c'est très important d'aller sur place, rencontrer les populations, savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire en cette électricité. C'est pas qu'un problème technique, c'est un problème social aussi.
Pourquoi faire, vraiment?
Et quelle est leur volonté? Donc, et puis la pérennisation un peu.
Bien sûr.
Donc pour eux, c'est quoi en fait? Avoir l'électricité en Casamance, ça amène quoi? Parce qu'avant, ils ne l'avaient pas, donc pourquoi on amène ça quoi, finalement?
Alors l'électricité, c'est surtout par exemple pour le dispensaire, c'est permettre de garder des vaccins au frais.
Pour tout ce qui est réfrigération en général.
Oui, réfrigération, amener des soins aussi la nuit. S'il se passe quelque chose, ben, la nuit, ils peuvent avoir de la lumière pour porter des soins à quelqu'un. La maternité, alors là, pour la maternité, il y a beaucoup d'accouchements. Et ils se font, actuellement, ils se font avec la matrone, la sage-femme, qui a sa torche coincée entre le cou et l'épaule et qui opère comme ça. Donc c'est vrai qu'amener l'électricité à la maternité, c'est important. L'école, on pourrait dire, ben, c'est pas très important parce que
c'est
l'école,
la
c'est la journée, mais pas du tout. Le problème, c'est que si les filles rentrent dans les maisons, ben, les devoirs, enfin, le travail, elles peuvent pas trop le faire parce qu'elles ont un travail domestique. Je dis les filles, mais les garçons aussi, qu'on s'y détache de berger, etc. Donc, c'est pouvoir continuer à travailler le soir et plus tard. Pour les enseignants, avoir quelques éléments, on va essayer de trouver, de partir en leur amenant, on va essayer de trouver un ordinateur pour leur amener, ça leur permettra d'avoir un outil de travail. Et puis, l'école, ce n'est pas simplement un lieu d'éducation, c'est aussi le lieu de rassemblement du village. Et donc, c'est un endroit où se passent plein de choses, où les gens se rassemblent. C'est tout simple. On avait assisté à... alors, c'était autour d'un poste radio, parce qu'il n'y avait pas de lumière, mais il y avait la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'est quelque chose. Hein. Alors, je pense que si un jour, ils peuvent avoir un téléviseur et pouvoir suivre la CAN, et un peu rigolo de dire ça, mais n'empêche que c'est ce qui nous permet de pérenniser les installations.
La fourniture d'électricité en fait sera payante pour les gens où ça marche comment ? Parce qu'en France, bon, on accède à ça, mais derrière, il y a quand même après des abonnements, ça coûte. Donc les populations locales, comment elles vont faire ?
Alors,
parce que vous y avez pensé un petit peu.
Bien sûr. Ça c'est la priorité. C'est la priorité du projet. C'est nous on fournit le matériel, hein, on va faire l'installation de base, mais n'empêche qu'après une installation photovoltaïque, c'est pas gratuit. Hein, il y a des batteries qui vieillissent vite.
Il peut y avoir un peu d'entretien aussi, non ?
Voilà, il y a un régulateur, etc., qui peut griller. Et donc pour cela, on crée un comité d'électrification sur place. C'est eux qui l'ont créé. Les parents d'élèves vont donner une petite somme chaque année pour chaque élève pour participer à ça. Au moment des accouchements, les gens vont donner aussi une petite somme au dispensaire aussi. C'est des sommes qui paraissent infimes, mais qui, accumulées, permettent d'avoir un fonds pour le jour où il arrive quelque chose. Souvent, c'est les batteries et les installations photovoltaïques. Le point faible, c'est les batteries. Elles ont une durée de vie, selon l'entretien, entre 5... Oh non, là-bas, ça vieillit beaucoup plus vite. Ouais. Donc, entre 5 et 10 ans, dans le meilleur des cas, si l'entretien est bien fait. Donc, il faut y penser dès maintenant. Et puis, alors, il y a un moyen de ramasser l'argent qui est rigolo, parce que ça existe partout, dans tous les pays qu'on a fait, c'est le téléphone portable. Alors, vraiment, il y en a partout, dans les endroits les plus paumés d'Éthiopie ou du Laos, trouver des gens avec des portables. Ça marche très, très bien. Et donc, la recharge des portables.
Hein, et bien sûr.
Quand on recharge les portables, on paye sans CFA. Hein, sans CFA, ça fait 15 centimes d'euros. Donc, c'est pas une grosse somme, mais ça permet de faire un fonds.
Voilà. Des petits services en plus pour tous ces gens.
D'accord. Donc, un beau projet avec encore là des militants, des bénévoles, des choses qui sont quand même sur l'investissement. Parce que ça représente combien de temps de travail pour vous, là, l'équipe sur Monde ?
Oh là là, ça c'est compliqué
à chiffrer,
mais...
Enfin, mais sur une année,
c'est... j'y suis tous les soirs. Quoi. Il y a des choses à faire, répondre à des mails, faire des appels, des demandes de subventions, répondre aux responsables locaux sur ces demandes. Oui, c'est vraiment, je ne sais pas, je n'ai jamais chiffré complètement, mais c'est vraiment beaucoup de temps.
Beaucoup d'investissement, oui.
Ouais. Mm. Je voulais aussi préciser qu'on a aussi, on organise aussi, j'en profite de ça, un concert le 8 août. À la Vénarmand, un concert de soutien. La Vénarmand nous donne une soirée dans la grotte de la Vénarmand. C'est vraiment un beau cadeau parce que c'est quand même un lieu un peu magique.
Avec qui paye l'électricité, là.
Non, c'est la bougie, la Vénarmand.
Et l'ensemble, ça sera l'ensemble vocal Perséide, hein, des voix magnifiques aussi. Et elles aussi, elles nous font bénévolement, elles nous donnent leur concert. Et puis on a aussi, je voudrais le citer parce que c'est déjà important, un partenaire particulier qui est le syndicat départemental d'électricité et d'équipement de la Lozère, qui depuis 4 ans suit nos projets et nous aide financièrement, subventionne nos projets.
Voilà.
D'accord.
Donc là, on peut rappeler que vous demandez donc une participation, aussi modique soit-elle, de 5 à plus, enfin,
oui, oui,
à ce que veulent les gens, en fait.
Dans le kiss-kiss-bang-bang, oui.
Voilà,
kiss-kiss-bang-bang. Il n'y a pas une date limite, là, sur ce kiss-kiss-bang-bang?
Alors, attention. On est à 60 jours, donc il ne reste plus que 2 mois. Donc voilà, on est début juin, juillet, fin juillet, début août.
Et vous obteniez combien? 3 000?
3 500 euros. Oui, si on ne les a pas, si on n'y arrive pas, tous les gens qui ont donné sont remboursés.
D'accord. Donc, d'accord, avant fin juillet, les gens qui sont intéressés pour participer financièrement, pour vous soutenir sur cette action Lumière à Kuba, peuvent aller sur le site internet KissKissBankBank, ils tapent Kuba, K-O-U-B-A, et ensuite ils se laissent guider.
Tout à fait, c'est bien ça.
Parfait. Voilà, donc soyez généreux pour aider ces...
Oui, pour aider tout à l'heure, vous avez parlé de matériel. Il y en a qui peuvent donner du matériel, par exemple, ordinateur ou des choses comme ça.
Ah oui, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. On a des gens qui nous ont contactés, pour des électriciens là, qui nous ont contactés. Ils ont récupéré des onduleurs, par exemple. Et nous, on a une cellule. Dans l'équipe, là, il y a des gens qui récupèrent avec 5 onduleurs. On en fait un ou deux.
Moi, j'aurais du matériel à vous donner, peut-être un ou deux ordinateurs, si ça vous intéresse.
Oui. Ah, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Oui. Ça, c'est pour l'école, pour les enseignants, c'est vraiment très, très bien.
C'est vrai que la Ligue de l'enseignement peut faire quelque chose, finalement.
Tout à fait, on a des grands projets de solidarité au niveau national, nous,
j'espère.
Madame. Voilà.
Merci donc beaucoup,
on
Nicolas.
On aide toutes nos associations, il n'y a pas de souci. Voilà, très bien.
Merci.
Eh bien, à bientôt, en tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci. Ouais. Et donc rendez-vous, n'oubliez pas, le samedi 8 août pour le concert.
Jeudi 8 août pour le à la Benarma à 21h. Oui, voilà. Oui, tout à fait. Les billets sont en vente là, dans les jours qui viennent, dans les offices de tourisme et à la Benarma.
D'accord, donc merci beaucoup Christian Huguet d'être venu nous présenter Électriciens sans frontières et ce projet en particulier.
On va faire une petite coupure musicale, mais peut-être justement pour faire la transition avec notre ami Georges Roum.
Présentons.
Qui est là donc.
Qui vient de sortir un CD, donc on le disait en introduction, un CD de chansons pas que pour enfants, de 7 à 77 ans, je crois.
Oui, c'est ce que je dis souvent quand je présente ce compact disque, bien sûr. Il y a 11 titres.
Ce compact disque.
Oui, un CD, bien
sûr. C'est vrai qu'on l'a oublié que ça voulait dire compact disque CD.
Donc, voilà, petit rappel. Et donc c'est 11 titres qui sont quand même, bon, en priorité c'était pour les enfants. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'en fait, ça s'adresse à plein de gens. Oui. Et puis...
Voilà. Et bon, on va écouter une des premières chansons,
pour commencer,
pour Anna,
qui a une histoire.
Oui, qui a une histoire, comme un petit peu toutes les chansons que j'ai composées. Et ce sont des chansons que j'ai composées il y a... Déjà, les premières chansons ont été composées il y a 5-6 ans. Et puis, bon, jusqu'à aujourd'hui, je vous expliquerai après, si vous voulez, pourquoi j'ai enregistré ce CD.
Allez, on écoute Chanson pour Anna.
Chanson pour Anna de Georges Roum.
Et Delphine Roum.
Et Delphine, sa fille.
Grand-mère ne connaît plus les fleurs de son jardin. Et grand-mère ne sait plus retrouver son chemin. Elle déambule dans la ville, ne trouve plus son domicile. Ses souvenirs sont partis vers l'oubli. Grand-mère ne connaît plus à force des années. Et grand-mère ne sait plus dire le temps passé. Elle se perd, elle s'égare sur le fil de ses histoires. Ses souvenirs sont partis vers l'oubli. Elle se casse. cache dans sa bulle et tous ses souvenirs sont partis vers l'oubli. Grand-mère a effacé à force de matin et grand-mère a gommé le visage des siens. Dans ses yeux et dans ses larmes, elle s'affole, elle s'alarme, et tous ses souvenirs sont tombés dans l'oubli. Et tous ses souvenirs sont tombés dans l'oubli.
Bonjour, nous voici de retour donc sur ce 36e MAG 48 FM, donc avec Georges Roum qui sort un CD de musique, Aristote et compagnie. Donc on vient d'entendre Chanson pour Anna. Mais Georges, tu vas peut-être nous présenter un petit peu, nous dire déjà d'où vient cette idée de CD. Ce
serait oui, intéressant. Donc ça remonte il y a quelques années. Moi j'ai dit 5-6 ans parce que je n'ai pas tout à fait le souvenir de la première chanson. En tout cas, la première chanson, c'était une chanson qui s'appelle Charlie Blues. Et
ah,
en
oui.
fait, c'est un petit peu une histoire vécue. Puisqu'en donnant des cours de guitare, j'ai eu un élève qui s'appelle Charlie et qui avait quelques petits soucis. Et il m'a raconté, donc ses parents avaient des difficultés. Et puis en partant donc, du cours le soir, j'ai commencé à avoir un petit peu le refrain dans la tête et j'ai commencé à écrire donc, le texte et puis la musique avec. Voilà. Et puis j'ai la chance donc, d'avoir ma fille Delphine qui interprète ces chansons et que je trouve qu'elles interprètent merveilleusement. Elle y met beaucoup d'émotions et ça me plaît beaucoup.
Elle a un léger trémolo de Patrice Eka, je trouve.
Hein, bon, voilà. Bon, écoute, c'est un compliment, Nicolas.
Non, mais c'est vrai que c'est...
Je lui transmettrai, ouais. Sauf si elle écoute l'émission, bien sûr.
Ouais, une très belle voix, oui.
Donc, toutes ces chansons, bien sûr, ont une histoire. Et puis, en fait, la décision d'enregistrer un CD, ben, c'est un petit peu parce que mes filles m'ont boosté. Ils m'ont dit, papa, bon, tu devrais en faire quelque chose de ces chansons. Mm-hmm. Et puis, pendant mon heure de formation musicale, où je faisais chanter à mes élèves mes chansons, Éric Parra, qui est le directeur du conservatoire de musique de Lozère, s'est trouvé par hasard, et là, c'est assez intéressant quand même, et il m'a dit, mais Georges, c'est de qui cette chanson? Je lui ai dit, écoute, c'est moi qui l'ai faite, mais bon, en toute modestie et tout. Et il me dit, t'en as d'autres? J'ai dit oui, et puis il me dit, écoute, on se voit demain, et tu me montres ses chansons, donc je lui ai montré mes chansons. Il a pris le piano, il s'est mis au piano. Et j'ai aussi eu la chance de travailler avec Tony Margalejo, qui est un professeur de guitare électrique et qui a fait de très très bons arrangements. Voilà, donc tous ces mes chansons...
C'est un travail d'équipe, quoi.
C'est un travail d'équipe, pleinement.
À l'EDML.
Oui, oui.
Ouais.
J'ai même ma fille Magali qui m'a aidé un petit peu au niveau de la littérature, parfois, parce que la syntaxe n'était pas tout à fait là. Voilà, elle m'a un petit peu donné un coup de main.
Après, donc, les écritures mélodiques, c'est toi qui les as.
Oui, j'ai fait. En fait, quand écrire une chanson, enfin pour moi, bien sûr, il ouais. y a plusieurs façons d'y accéder. Parfois, c'est tout à coup un événement, quelque chose qui se produit. Et puis, on a un texte et même parfois la musique. Il y en a une qui s'appelle Bibendum, qui est un autoportrait qui me ressemble beaucoup. Je remplis mes poches de tout un tas d'objets, etc., etc. Je me promenais autour du Lot là en marchant et puis tout à coup j'ai chanté je remplis mes poches de tout un tas d'objets et puis voilà le reste après c'est venu quand je suis rentré à la maison
et Bibendum c'est parce que tu as eu un pneu dans le
non,
dans le Lot non c'est ça
j'ai vu un pneu oui.
non, c'est à force de remplir ses poches
il est taquin ce Nicolas
à force de remplir ses poches il ressemble à un Bibendum ce petit bonhomme voilà, dans
fait,
la chanson
je l'ai fait en forme de rêve. Enfin, rêve un peu cauchemar, parce qu'en fait, à force de remplir les poches et de remplir les poches, et bien à la fin, en fait, ça explose. Et puis on entend le réveil qui sonne, et là, ouf, on se réveille, et quoi, voilà.
Très bien, mais il faut aussi dire que Georges, t'es un passionné de musique.
Oui.
Tu as fait une école particulière en formation musicale.
Oui, j'ai travaillé sur l'École nationale de musique de l'Aveyron, puisque moi, j'avais une association qui s'appelait Euphonie. Et ouais. Lorsque...
Oui, c'est ancien, ça, déjà.
C'est ancien, oui, hein, Nicolas.
Je crois me souvenir de cette appellation Euphonie.
Euphonie, oui.
Il y avait Lucien Deleuze derrière.
Voilà,
il y avait tout ça.
Oui, il y avait bien sûr toute ouais. l'équipe de gens toujours aussi enthousiastes et bénévoles. Et après, donc, il y a eu la mise en place de cette école départementale ouais. et on nous a demandé de fusionner. C'était en 80, fin 90. Et moi, comme je n'avais pas mes diplômes, j'avais dit non, c'est bon, je vais continuer mon travail. Et le hasard m'a encore rattrapé une fois, puisque le professeur qui avait pris le poste a été obligé de le quitter. Et on m'a de nouveau fait appel à moi. Et là, j'ai dit, bon, ben, ok, je le fais. Mais cette fois-ci, je fais une formation et je passe mes diplômes. Donc, j'ai
le DUMiste.
C'était, non, ce n'est pas non. Le DUMi, là. Non. C'est un DEM, un diplôme d'études musicales. D'accord. Ça se passe dans des conservatoires.
Voilà. Donc, des années de pratique, des années d'encadrement, d'enseignement oui, de la musique qui t'a...
Je ne sais pas si tu étais né, Nicolas, mais moi, j'ai commencé les bals, j'avais 15 ans. J'ai fait du baloche, hein, comme beaucoup de musiciens.
En quelle année, Georges ?
Sur le terrain, oh, je ne sais plus exactement.
Je venais peut-être au bal, déjà.
très jeune.
Alors, hein. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du tout. Voilà, et donc, c'est vrai qu'après, il y a tout un cheminement comme ça qui se fait, à la fois par la rencontre des gens, et aussi comme ça, bon, il faut dire aux gens qui ont une passion, parce que là, je vois que... Christian, qui est à côté de moi, est aussi un passionné. Et quand on a une passion, les choses, elles avancent. Donc, je dis aux gens qui sont passionnés, qui veulent accéder, ils peuvent le faire à temps partiel, parce que ça, c'est pas impossible, mais qu'ils aillent vers la passion. Parce que franchement, c'est tellement...
Bon, en général, les gens dans les associations sont souvent passionnés. Ils y sont pas pour rien, quoi. C'est souvent par un peu de don de soi, mais aussi par intérêt, par connaissance.
On retire plus que ce... On retire beaucoup, on reçoit beaucoup, autant,
ah oui, c'est sûr.
Beaucoup plus que ce qu'on donne, on reçoit beaucoup.
C'est pas un salaire, mais c'est bien mieux, c'est important de faire ce qu'on aime.
C'est le lien social, ouais. Et puis,
oui, c'est un lien social, bien sûr.
Et puis c'est aussi ce qu'on retrouve, parce qu'on retrouve des jeunes aujourd'hui que tu as formés à la guitare, qui sont maintenant dans des groupes de rock ou dans d'autres groupes de musique, qui percent, qui veulent en faire leur métier. Donc déjà, ça c'est une réussite.
C'est intéressant de transmettre en fait son savoir. Et puis moi j'ai cette chance-là, donc du fait que je suis à l'école de musique, je me dois d'être pédagogue, et j'ai utilisé quelques chansons pour ça, pour le faire. Il y a une chanson qui s'appelle Voyelles, donc il y a à l'intérieur de cette chanson j'ai mis quelques jeux de mots, donc ça peut être la découverte aussi des jeux de mots. Une autre chanson qui s'appelle Consonne, puisque ça va avec, et qui est une scottish. Donc voilà, on s'est présenté. Moi, je trouve que c'est assez varié, le travail que nous avons fait, parce que, en fait, le groupe des compagnies, c'est quand même aussi un groupe musical. Demain, par exemple, Nicolas, si tu veux nous inviter, sûrement, je me place déjà, voilà.
Il n'y a pas de problème, hein.
Voilà. Et on peut donc.
On ouvre toutes les propositions.
Voilà. On peut donc faire les concerts, maintenant.
Donc là, le groupe Aristote, c'est quoi?
Aristote et compagnie, c'est. Bien dedans, donc il y a Delphine, ma fille.
Alors, Delphine, elle a fait quoi comme formation?
Delphine, elle a fait des formations. Elle a beaucoup travaillé dans l'art, hein, puisque elle a fait histoire de l'art. Elle a fait histoire, elle a fait géographie, elle a fait le conservatoire de guitare sur Montpellier. Elle a travaillé sa voix auprès de professeurs de chant, bien sûr. Hein. Et voilà. Donc moi, je dirais que c'est une artiste.
Et complète.
Complète. Voilà. Je dis ça. Et puis après, donc au niveau du groupe, il y a José Taral qui travaille sur l'Aveyron. Tony Margaligeau, qui est un excellent guitariste, Eric Parra, qui est un excellent musicien, qui est percussionniste à la base, mais qui peut aussi jouer du clavier. Enfin, voilà. Souvent, les musiciens, ils savent faire plein de choses. Et quand on tombe sur des musiciens comme ça, on a de la chance.
Polyvalent.
C'est très, très intéressant de travailler avec eux, parce que ça gagne du temps. Et puis, on sait qu'on va faire un travail de qualité. Voilà. Et je pense que ce disque, qui est en dépôt-vente, j'en profite pour le dire, l'espace culturel d'Hyperu, et puis aussi à From Imagine Voyage et chez Coraline.
D'accord.
C'est au prix de 10 euros.
Trois points de vente ici à Mende.
Trois points de vente.
Est-ce qu'on le trouve sur Internet?
Alors, pas encore, mais ça peut venir. C'est une excellente idée. Je vais le faire.
Ah ouais, parce que maintenant...
Ben oui, bien sûr. Oui. Mais bon, moi, j'aime bien aussi rencontrer les gens. J'aime bien le contact. Moi, des fois, Internet, c'est que je l'utilise quand même, tout de même.
Oui, ça reste.
Mais ça enlève le contact avec les gens. Là, tu vois ce qui se passe maintenant. Pour moi, c'est de l'émotion. C'est intéressant.
Alors, peut-être faire une signature ou une dédicace à Hyperu, peut-être, non?
Oui, bien sûr.
Pour proposer ça, pour te faire connaître aussi.
Oui, je pense que là, ça va aller dans la suite logique des choses. C'est après de faire une journée dédicace.
Super. On va écouter peut-être un deuxième morceau.
Oui, je crois que le deuxième morceau que j'ai choisi, c'est une chanson sur l'écologie. Ça s'appelle Dame Planète.
Dame Nature. Oui, c'est pour moi qui l'a choisi. Dame Planète. Merci. Merci, Georges.
Mais avec.
Alors, Dame Planète, ça vient de quoi ? Ça vient.
Dame Planète. Alors, c'est aussi intéressant. Dame Planète. Ouais. C'est une dame qui s'appelle Émilienne Michelet, enfin qui n'est plus de ce monde, et que j'ai rencontrée un jour et qui m'a dit voilà, j'ai écrit un petit texte sur l'écologie. Elle m'a montré ensemble, on a retravaillé le texte. Et bon, je voulais la citer parce que c'était un personnage tellement attachant. Et j'ai fait donc la musique dessus, et puis ça donne ce qu'on va entendre. Voilà.
Super. Dame Planète.
Dame Planète a de la peine, Dame Planète a la migraine. On la salit, on la pollue, on la salit, la pollue. On ne la respecte plus. Dame Planète a du tourment pour ses mers, fleuves et océans, pour ses ruisseaux et ses rivières, sa couche d'ozone, son atmosphère. Ses belles plantes, ses forêts, pour ceux qui touchent à sa nature et qui sans cesse la torturent.
FM Le Mag.
C'était Dame Planète, dans chanson extraite du CD d'Aristote et compagnie. Donc Georges Roum, cette chanson, elle a une petite histoire. Tu nous parlais de la dame qui l'a écrite.
Oui, la dame qui a écrit un texte, bien sûr, de base, qu'on a modifié tous les deux. Et voilà, j'ai été heureux de pouvoir la mettre dans cet album, quoi. Voilà, pour Dame Planète.
Ces chansons ont toutes un petit peu une histoire, hein, sur.
Oui, il y a donc toutes ces chansons, ou en tous les cas, comme par exemple Aristote et compagnie, je crois qu'il faut il faut essayer de l'écouter à plusieurs. C'est pas prétentieux ce que je dis, mais je crois qu'il y a plusieurs niveaux de lecture.
Oui. Le texte n'est pas forcément facile d'entrée de jeu.
Voilà, d'entrée de jeu, c'est pour ça enfants, que voilà, quand voilà. On dit pour les enfants, effectivement.
Plus ou
mais
moins.
Par contre, ça pourrait être un outil de travail pour les enseignants. Ça pourrait être très très bien pour ça. Si je prends l'exemple d'Aristote et compagnie, Aristote, c'est le chat, bien sûr. Ouais. Et il y a une petite souris grise qui est toute une trotte menue, ça s'appelle comme ça, qui est un petit peu dans la misère et qui est un petit peu désespérée et qui veut enfin mettre fin à ses jours. Et elle se dit, tiens, si je rencontre un chat, il va me manger. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Aristote, le chat, c'est un philosophe et qui est végétarien. Donc, elle n'a vraiment pas beaucoup la chance de ce qu'elle espérait. Elle n'a pas le retour, en tous les cas. Et elle passe son chemin très déçue, quoi, du chat. Voilà. C'est toujours une petite histoire.
À méditer, quand même. Hein,
à méditer, oui. Voilà. Eh bien, oui, ouais. Parce que là, en fait, Aristote, c'est quand même un gros bourgeois.
On peut le
dire comme ça. Il ne faut pas avoir peur de le dire. C'est comme ça aussi. Ça se passe comme ça, la société, souvent. Hein. Voilà.
D'accord. Bon, mais merci Georges pour pour ce CD. Donc je rappelle quand même qu'il est en vente à l'espace culturel d'Hyper-U, chez Coraline, et le troisième point de vente,
c'est Franc Imagine Voyage.
Voilà, l'agence de voyage, voilà. Donc Amande.
Merci de m'avoir invité, Nathalie.
Merci à toi,
Georges. Un plaisir pour moi.
Bonne continuation. Merci. J'en profite pour vous signaler un petit changement, puisque Nicolas nous a lâchement abandonnés. Alors on remercie Guillaume qui a pris la relève au pied levé. Voilà, merci Guillaume d'être avec nous. Voilà, je crois qu'on va faire une...
Juste une petite virgule et puis on passe à la troisième partie.
Allez, on y va.
48 FM Le Mag.
Elle est jolie cette virgule.
C'est la troisième partie de ce mag.
Voilà, donc tout à l'heure on a passé la chanson Dame Planète de Georges Roum et justement on va en parler un petit peu de notre planète avec Anne Raymond et Xavier Pédel, donc qui sont là pour nous parler des 20 ans du Conservatoire d'Espaces Naturels de Lozère. Voilà, donc rebonjour à tous, on vous a vu en tout début d'émission, donc vous allez peut-être nous expliquer un petit peu pour commencer ce qu'est ce Conservatoire d'Espaces Naturels de Lozère, puisqu'il existe depuis 20 ans, mais du grand public, est-ce qu'il est bien connu ?
Oui, donc le conservatoire a 20 ans d'âge, au début il s'appelait le Conservatoire départemental des sites lozériens, on vient de changer de nom pour s'harmoniser avec les autres associations nationales. Donc le conservatoire c'est une association qui a pour but de gérer l'environnement, de gérer du territoire avec des partenaires pour essayer de mettre en pratique ce qu'on voudrait que ça soit, donc ne pas détruire comme on le fait à grande échelle actuellement notre planète. On en a parlé avec la chanson qui précédente. Et voilà, donc il y a des conservatoires dans toutes les régions et dans certains départements. En général, c'est régional. Et nous, on en a créé un en Lozère parce que c'est toujours plus facile de gérer du département plutôt que de Montpellier.
Très localement, oui.
Voilà. Et donc, le conservatoire essaye de travailler avec des gens qui sont en prise directe avec le terrain, c'est-à-dire les agriculteurs, les forestiers, qui sont propriétaires, donc. Et pour mettre en pratique des façons de faire qui respectent l'environnement.
D'accord. Voilà,
donc par exemple, pour la gestion de zones humides, donc c'est les zones humides, c'est les tourbières, c'est les prairies humides qui sont très nombreuses en Lozère. Il y a eu à une époque, depuis une cinquantaine d'années, il y a eu de très nombreuses destructions de zones humides par drainage, et on a essayé de travailler avec un certain nombre d'institutions et de propriétaires pour essayer de diminuer ces pratiques, de retrouver des pratiques respectueuses de ces milieux naturels qui sont très riches, qui sont très importants pour les rivières, etc. Donc voilà, ça c'est l'objectif d'un conservatoire. C'est une association de protection de l'environnement, mais qui travaille avec des propriétaires.
Directement sur le terrain avec les gens concernés. Tout à l'heure, on parlait de pédagogie avec Georges. Je crois que là, encore une fois, vous devez faire preuve, j'imagine, de beaucoup de pédagogie. Comment est-ce que vous procédez, du coup, pour mettre en œuvre, pour essayer d'orienter, on va dire ?
Alors, on essaye de... Bon, déjà, on peut partir de la connaissance qu'on a du territoire, parce que le conservatoire a, au départ, quatre grandes missions. La première, c'est... Enfin, la première, pas forcément dans l'ordre, mais on a une grande mission de connaissance. Donc, l'association a réalisé un certain nombre d'études sur les milieux naturels ou sur certaines espèces d'intérêt patrimonial avéré. On a notamment réalisé la quasi-totalité des inventaires de zones humides, donc les milieux dont parlait Xavier tout à l'heure. On a une mission, la mission principale de gestion, d'accompagnement technique des acteurs locaux, propriétaires, gestionnaires, collectivités locales. Donc ça, c'est vraiment le cœur, on va dire, de l'association. Et puis, on a aussi un volet, alors tout ça, ça peut être un petit peu lié, d'information, de communication autour des connaissances qu'on a pu acquérir et qu'on cherche à partager, et de sensibilisation. Voilà, ça fait partie des quatre grandes missions. Donc effectivement, tout à l'heure, ont été évoquées la transmission et la pédagogie. Ça, c'est ce qu'on essaye de faire via des sorties grand public, des sorties sur le terrain destinées ciblés sur certains publics, donc notamment l'organisation de sorties destinées aux agriculteurs, avec qui on n'arrive pas on n'arrive pas en donneur de leçons, mais on essaye aussi de partager des informations, parce que nous, on a on a un certain nombre de connaissances qu'on cherche à partager. Et puis, bah, les acteurs locaux, ils ont aussi des connaissances dont on a besoin pour mieux communiquer, transmettre, partager et faire que la préservation, la gestion durable des milieux naturels soit partagée par le plus grand nombre.
Oui, il faut que ce soit finalement un accord, enfin une convergence entre vos objectifs et ceux des utilisateurs de ces espaces.
Oui, tout à fait. C'est ce qu'on cherche en fait en expliquant déjà le fonctionnement des milieux naturels et le lien qu'on peut avoir avec, l'économie locale, par exemple. On arrive à trouver des terrains d'entente et voilà, c'est pas toujours évident, mais...
Il vous arrive de vous heurter aux gens, vous avez rencontré des difficultés parfois ?
Oui, quand on a commencé à parler des zones humides dans le département, ça a été assez difficile parce que le milieu agricole était très remonté. Ils voulaient absolument faire ce qu'ils avaient envie de faire comme ils le faisaient. Mais pas comme ils le faisaient de façon ancienne, puisque les drainages, c'est quand même relativement récent. Donc, on s'est quand même heurté, pas violemment, bien sûr, hein, mais bon, il y a eu un moment des manifestations à Mende pour aller à l'encontre de ce qu'on voulait faire. Quoi. Et donc, petit à petit, on arrive quand même à avancer, puisqu'on on fait des articles dans les journaux, on fait des publications, on travaille avec d'autres institutions, comme l'Office national des forêts, les agences de l'eau, et donc on réussit petit à petit à faire passer nos idées, et on a mis en place, en Lozère, quelque chose qui existait ailleurs, qui est le réseau SAGNE, qui est un service d'aide à la gestion des territoires, et nous particulièrement sur les zones humides. Et donc ce service d'aide, petit à petit, on a réussi à travailler avec une cinquantaine d'agriculteurs. Anne, qui elle est spécialement, son travail de salarié est spécialement dirigé vers cette fonction-là. Et donc on fait des réunions d'information, on fait des visites de terrain, des diagnostics pour voir comment on pourrait faire pour mieux protéger, tout en ayant une utilisation, c'est essentiellement du pâturage, bien sûr. Et on y arrive. Donc on arrive petit à petit à faire passer les choses. Quand on sera sur la majorité des agriculteurs et des milieux naturels, on aura gagné.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi un développement du fait des financements avec... les mesures agro-environnementales qui s'inscrivent aussi dans votre objectif, finalement, de concilier environnement et activité agricole ?
Ça vous aide, oui.
Ça a sans doute participé, dans une certaine mesure, à un certain changement de mentalité. On parle plus de l'environnement, on parle plus des milieux naturels. Après, dans les faits, on est une association de protection de la nature. C'est pas toujours simple parce qu'on est une association de protection de la nature, on est un petit peu les empêcheurs de tourner en rond quand même. Et les MAE, enfin les mesures agri-environnementales, reposent sur un soutien financier qui parfois n'est pas forcément justifié en termes d'amélioration de l'état de conservation des milieux naturels. Voilà, enfin c'est une petite nuance.
Bon, sur le terrain, c'est pas aussi fin en fait.
Oui, parce qu'effectivement, on s'appuie aussi sur des dynamiques nationales et internationales. Si, enfin, oui. L'Europe donne des subventions à l'agriculture, et c'est par l'Europe souvent qu'on a réussi à faire protéger les milieux naturels de l'Europe. Et heureusement qu'on a cette dynamique-là, sinon on n'aurait pas avancé.
Oui. Et donc à force d'échanges, de discussions, de partage de connaissances. Entre vous et entre les acteurs de terrain, on progresse petit à petit. Hein.
Oui, tout à fait. Il y a maintenant, on travaille avec 53 partenaires donc directs, qui sont en grande majorité des agriculteurs. Il y a également des communes qui sont partenaires du conservatoire, et ce, depuis longtemps. Hein. La première commune, je pense qu'on peut la nommer, qui est partenaire du conservatoire, c'est la commune de Lajeaux. Avec qui on a travaillé depuis longtemps pour la préservation des tourbières à Boulonnin de cette commune. Donc c'est vraiment une commune qui est engagée depuis longtemps pour la reconnaissance, la valorisation et la préservation de son patrimoine naturel. Je pense qu'on peut le saluer parce que ça reste quand même assez, j'allais dire, exceptionnel au niveau du département d'oser travailler dans ce sens-là, en tout cas de le mettre en avant.
Un précurseur, donc. Juste pour le grand public, est-ce que vous pourriez peut-être nous exposer l'intérêt de ce que vous défendez, notamment les zones humides, que chacun comprenne bien quel est l'intérêt de les préserver, ça pourrait être intéressant.
Alors, ça va être difficile de passer tous les milieux naturels de Lozère.
Bon, bien sûr.
Ce qu'il faut surtout dire, c'est que on croit que la Lozère est protégée de la destruction de la planète, puisque on n'a pas d'industrie, on a une population très faible, etc. Mais on constate quand même que la biodiversité recule. On le constate par les connaissances des bénévoles de terrain qui font des relevés régulièrement, qui notent tout ce qu'ils voient et qui peuvent comparer. Là maintenant, on est fédéré, disons, au niveau du département entre tous les bénévoles depuis une quarantaine d'années. Donc voilà, on commence à avoir un petit peu de recul. On a des écrits aussi plus anciens qui nous disent qu'avant, il y avait plus ceci ou plus cela. Et maintenant, on constate quand même qu'il y a un certain nombre de dérives qui mettent à mal l'environnement lozérien. Donc ça, c'est un de nos grands combats, autant au conservatoire qu'à l'ALEP, qui est l'autre association départementale de protection de l'environnement. Et on travaille ensemble. Donc à faire reconnaître cette biodiversité qui est très importante sur le département, et à faire reconnaître surtout que cette biodiversité, il faut la protéger et il faudrait la protéger de plus en plus. Donc les zones humides, le gros critère des zones humides, c'est que il y a à la fois dedans des plantes et des animaux qui sont particulières et qui sont à protéger, patrimoniaux. Il y a aussi un fonctionnement hydrologique qui fait que en aval, ça se traduit sur des étiages dans les rivières en période sèche. Et puis, il y a aussi un caractère pédagogique des zones humides, puisqu'on fait des sorties dessus en emmenant des écoles pour leur montrer que ce n'est pas parce qu'il y a de l'eau dans un terrain que c'est plus intéressant, qu'on ne peut plus y rentrer. Parce qu'autrefois, c'était les sagnes. C'est des endroits où on ne va pas, c'est des endroits qu'il faut épurer, entre guillemets. Voilà. Donc, du coup, il y a un certain nombre de choses qui se rejoignent pour dire qu'il faut protéger ces milieux-là. Et alors, la difficulté, c'est de les protéger tout en continuant à avoir une gestion du territoire par les acteurs qui sont les propriétaires. On ne veut pas empêcher, bien sûr, les gens de faire de l'élevage de vaches sur les tourbières. C'est possible, mais dans certaines conditions. Et on se sert de l'expérience qu'on a des pratiques dans d'autres départements ou d'autres pays pour essayer d'avancer dans ce sens-là.
Ouais, donc vous aidez les agriculteurs à trouver des solutions techniques qui leur permettent de continuer leur production tout en étant plus respectueux des zones humides et autres territoires à préserver. Et effectivement, ce que vous nous dites, c'est que c'est pas parce qu'on vit en Lozère, on a l'impression effectivement en Lozère d'être sur un territoire un petit peu privilégié. Donc du coup, est-ce que vous êtes confronté à des gens qui du coup, est-ce que vous avez l'impression qu'on va moins faire l'effort du coup les Lozériens parce qu'on a cette idée d'environnement préservé?
Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on ressent très clairement dans les discussions à droite et à gauche, et en particulier avec les gens qui ont le pouvoir sur le département, le pouvoir de faire ceci ou d'aller dans un sens ou dans l'autre. Effectivement, l'environnement, c'est la dernière roue de notre charrette en Lozère. Mm-hmm. Et là, nous, on est là, en tout cas, pour dire que non, ça ne doit pas être la dernière roue. On a un pays qui est magnifique, par ses paysages, mais aussi qui est très intéressant parce qu'on a un certain nombre d'espèces que les autres n'ont pas forcément. Et il y a en particulier un tourisme particulier qui vient, des gens qui viennent en Lozère pour retrouver ces milieux naturels qui sont relativement protégés, pour retrouver des espèces qu'ils ne voient pas ailleurs. Bon, on peut parler du vautour parce que c'est très facile, c'est très visible, mais enfin, il y a un tas d'autres espèces que... Bon, on parlait tout à l'heure du boulonnin, qui est une espèce... Mm. De boulot qui est très particulière, qu'on voit partout en Finlande.
En Lozère, sur les zones humides.
En France, on a quasiment qu'une station, enfin, on a très peu de stations de boulonnins. Il y en a une à Lajeaux, donc sur le sentier de découverte qu'on a aménagé il y a une quinzaine d'années. Et il y a une autre espèce, pour faire la transition, il y a une autre espèce qui est très, très emblématique, c'est le sabot de Vénus, qui est une orchidée... La plus grande orchidée, je crois, qu'on ait en France. On va justement le 8 juin prochain, samedi prochain, lors de notre Assemblée Générale pour fêter nos 20 ans d'existence, on va aller voir cette station, enfin une des stations de Sabot de Vénus, qui se trouve dans les gorges du Tarn, et qui est une des... Alors, c'est un complexe, si vous voulez, de petites stations, qui est le plus important de France. Avec à peu près 3000 pieds qui ont été inventoriés et repérés.
Et là, c'est la pleine saison pour le Sabot de Vénus.
Alors là, la saison, bon, on est un petit peu en retard cette année.
Oui, c'est un peu fleuri, voilà, ça, mais ça va encore.
Il neigeait encore, il n'y a pas très longtemps. Donc les fleurs ont eu un petit peu de mal à démarrer.
Ouais.
Mais là, elles sont en train de commencer à fleurir.
Parfait.
Alors, c'est une orchidée qui est donc rare en France.
Protégée.
Et qui est protégée, oui. Toutes les orchidées ne sont pas protégées, mais celle-là, elle l'est. Et... il y a beaucoup de gens qui viennent de partout en France pour aller voir ces stations. Il y a des bus entiers qui viennent. Et ça pose un problème de surfréquentation du site. C'est des sites qui sont, qui sont difficiles d'accès. Donc, il y a des endroits, des passages obligés. Et finalement, les gens qui viennent voir ces sabots de Vénus finissent par dégrader le site. Un peu comme dans d'autres sites qu'on connaît en France. Et donc, voilà, en plus, on a eu une Natura 2000 qui est venue se mettre par là-dessus pour ajouter une couche de protection supplémentaire à la protection de la fleur elle-même. Et grâce à Natura 2000, on va pouvoir protéger un peu mieux, on va pouvoir aménager une ou deux petites stations et laisser les autres tranquilles. Et puis, par contre, là, on va bien protéger, on va faire des sentiers qui sont... pas dégradant, c'est-à-dire on va canaliser un petit peu les gens qui voudront voir et faire des photos, etc.
D'accord.
Et donc ça veut dire que vous allez aussi dans vos actions, dans de l'aménagement physique de sites pour permettre l'accès à cette...
Ces touristes naturalistes.
Voilà, tout à fait.
Voilà, et c'est important parce que effectivement quand les choses sont rares et que tout le monde veut les voir, bon, on finit par
ça marche
par
pas ça.
Dégrader. Ça marche, enfin, c'est vrai pour les fleurs, c'est vrai aussi pour, par exemple, l'aigle royal. Si tout le monde va le prendre en photo quand il niche dans les falaises qu'on connaît, eh ben, on va finir par le déranger et puis il va s'en aller. Donc voilà, il faut faire attention. Et il y a un certain nombre de moyens pour faire attention. C'est partout en France, on commence à s'apercevoir de ça. Mais ce tourisme de nature, il peut être important pour la Lozère. Et ce qu'on dit aux élus, c'est que bon, c'est quelque chose qu'il faut à la fois protéger et puis ça peut permettre un certain développement respectueux. Et voilà, c'est ce qu'on appelle le développement durable.
C'est ça, et une forme de tourisme hyper respectueuse pour le coup de l'environnement. Ce serait l'idéal pour notre territoire. Qu'est-ce que vous en pensez, Anne-Raymond?
Oui, tout à fait.
Du enfin, tourisme. Sachant...
Oui, non, mais moi je suis d'accord avec vous, mais après... Il ne faut pas seulement chercher à développer le tourisme.
Bien sûr.
Hein, on est là aussi pour travailler avec tous les gens qui sont ici. Et c'est ce qui nous semble important, c'est d'essayer de travailler avec les gens qui sont sur le terrain en expliquant et en partageant des connaissances qu'on peut avoir chacun, quoi. Alors après, c'est vrai que c'est quelque chose qui va bien fonctionner quand les gens ont envie de partager des choses. Et puis, des fois, il y a certains acteurs qui ont moins envie. Donc là, c'est plus difficile.
Il faut un peu plus de temps.
Oui, il faut un peu plus de temps, de ténacité peut-être.
C'est ça. Bon, alors parlez-nous peut-être un petit peu de cette journée du samedi 8 juin à la Malène.
Qu'est-ce que
vous allez faire?
Comment vous fêtez tout ça, quoi?
Ben là, en fait, on fait ça lors d'une assemblée générale. Hein, donc,
donc pas de gâteau.
L'assemblée générale, c'est un moment fort d'une association, toujours. Hein. Donc on est une association départementale, il y a des gens qui viennent de tout le département. L'Assemblée Générale, c'est le moment de se retrouver, c'est le moment d'échanger, c'est le moment de faire les bilans de l'année passée et des espoirs pour l'année suivante. Le moment aussi pour les bénévoles de rencontrer les salariés. On a 4 salariés au conservatoire, donc ça c'est quelque chose dont en tant qu'administrateur depuis le début... voilà, on est assez fiers de pérenniser des emplois sur ce sujet-là, sur l'environnement. Donc il y en a 4 au conservatoire, il y en a 5 maintenant à l'ALEP. Donc ça, voilà, ça fait 9 emplois sur l'environnement au niveau associatif dans le département. Donc les salariés sont aussi contents de montrer le travail qu'ils ont fait dans l'année, autant en études qu'en réalisations diverses. Il y a... Donc le rendez-vous pour l'Assemblée Générale, c'est à 9h45 à la Malène.
Mm-hmm.
Donc le matin, ça sera en salle, bien sûr. Et ensuite, l'après-midi, on ira pique-niquer sur le Causse avec le beau temps. Et on ira donc, on se rendra sur la station de Sabot de Vénus pour compter les fleurs. Voilà.
C'est ouvert à tous ou
une C'est ouvert à tous, oui. Bien sûr, l'Assemblée Générale ne vote que ceux qui ont
adhérents, bien sûr.
Mais bon, bien sûr, on ouvre à tous puisque on cherche toujours à faire passer les connaissances, à faire passer la passion. Et
ça peut être l'occasion d'accueillir de nouveaux adhérents.
Voilà, tout à fait.
Et puis pour les Lozériens peut-être qui ne connaîtraient pas encore le Sabot de Vénus et qui auraient envie de venir avec vous le découvrir dans l'après-midi, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver ?
Alors on démarrera, puisqu'on ne sait pas encore exactement où est-ce qu'on va, le lieu de pique-nique exactement, suivant le temps qu'il fait. J'ai dit qu'il ferait soleil, mais je ne suis pas encore...
Mais oui, c'est sûr. Ouais.
Assez vieux pour être devin. Et donc le rendez-vous, ça sera à la fin de l'Assemblée Générale à 12h30. Et normalement, on casse-croûte tous ensemble, donc chacun amène ce qu'il veut, on partage et on ira sur le terrain ensuite.
D'accord, voilà. Très bien. L'info est passée.
Oui, moi j'avais juste une petite info complémentaire qui n'est pas en lien direct avec l'Assemblée Générale. C'est pour les gens qui souhaiteraient, qui auront le malheur de ne pas pouvoir venir à notre sortie de samedi, on organise des sorties... grand public, alors pas beaucoup, mais un certain nombre durant l'été. Donc là, la prochaine va avoir lieu le mardi 16 juillet et ce sera une bonne occasion de mieux comprendre comment fonctionne le conservatoire et les partenariats qu'on peut développer avec des agriculteurs notamment, puisque ça va être l'occasion de faire une journée à la ferme chez un agriculteur partenaire, donc à la ferme de la famille Amargé au Giraldès. Voilà, donc je profite de ce passage à la radio pour l'annoncer. Ouais.
Alors le Giraldès est à côté d'Arzenc de Randon, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Hein.
Non, mais bon, ça peut être une bonne occasion pendant l'été.
Le 16 juillet donc.
Tout à fait, et ensuite il y aura au moins une sortie d'organiser donc, à l'attention de tous sur la commune de Lajoie pour découvrir les tourbières à Boulonnin. La date n'est pas calée. Et une seconde sortie à Lajoie, mais qui sera réalisée en septembre en association avec l'ALEP et l'association La Chazelle, qui devrait permettre de faire découvrir ces tourbières à des personnes handicapées. Voilà.
Bien. Où est-ce qu'on...
Alors, on pourra, si vous nous transmettez les infos, vous retrouverez pendant l'été, puisque nous sommes en train de travailler à notre grille d'été sur 48FM.
Tout à fait.
Et il y aura un agenda tous les jours. Donc, on n'oubliera pas d'annoncer cette proposition un petit peu, effectivement, événementielle pour aller découvrir donc, Giraldès.
Au Giraldès, chez monsieur et madame Amargé, pour voilà. Discuter
puis,
un petit peu de tous les points.
Les autres propositions de cet été, elles seront. Voilà, on en proposera à peu près, ce sera une sélection, ce sera une actualité par région naturelle à peu près, pour voilà, notre sélection de 48FM. On vous proposera donc, si vous voulez bien, de nous transmettre les informations. Et c'est valable à tous ceux qui nous entendent aussi, qui sont en charge. D'animation pendant cet été, n'hésitez pas à nous transmettre à redac@48fm.org vos propositions durant l'été pour qu'on commence à préparer nos agendas de l'été.
Voilà. En termes d'activité, il y a quelque chose aussi qu'on propose aux adhérents de temps en temps, c'est des chantiers pour les bénévoles sur les sites qui sont gérés par le conservatoire. Et donc, c'est des chantiers qui consistent à faire du travail pratique sur le terrain, dans le sens de la gestion environnementale des parcelles, ou alors, par exemple, pour le sentier de Lajoie, c'est la remise à niveau du sentier, débroussaillage un petit peu, couper quelques branches pour le passage, etc. Et ça, c'est aussi des occasions de se retrouver de façon très conviviale, puisqu'on mange sur le terrain, chacun amène sa bouteille, et on travaille mieux après.
Ah, non, il vaut mieux travailler avant quand
même.
Oui,
je pense que c'est peut-être mieux. Ouais.
C'est plus prudent pour remettre en état les sentiers. Bon, Guillaume ?
Je pense qu'on peut vous remercier tous d'avoir été présents pour ce mag.
Merci beaucoup à tous les quatre.
Voilà. Merci à vous. Merci.
Rappelez que ce soir sur 48FM à 18h11, il y a la rediffusion du magazine Actuel et Lui. Donc avec trois sujets comme d'habitude d'actualité nationale. Donc les séries télé, nous avons aussi les nouveaux mots du dictionnaire, et j'en oublie forcément un, et je vais me faire taper, comment choisir un resto. Voilà, ça c'est les trois actualités.
Comment choisir un resto, intéressant.
Voilà, les trois sujets d'Actuel et lui, c'est la rediffusion du magazine qui était en direct jeudi midi. Ce magazine sera rediffusé jeudi à 18h11, et jeudi à 20h, ça sera un numéro spécial de Réunoco, puisque nous sommes le premier jeudi du mois. Voilà pour les rendez-vous sur l'antenne de 48FM.
Merci Guillaume.
Voilà, et puis à bientôt.
À bientôt.
Merci Nathalie.
Bonne continuation à tous. Au revoir.